Ses camarades avaient commis un vol. La somme devait être restituée aujourd'hui même. Tu l'appelles? Son nom? Voyons, son nom. Dussardier. Et il se jeta à genoux en la suppliant de n'en rien dire. Quelle idée as-tu de moi? Reprit Madame d'Ambreuse. On croirait que tu es le coupable. Finis donc tes airs tragiques. Tiens, les voilà, et grand bien lui fasse. Il courut chez Arnoux. Le marchand n'était pas dans sa boutique, mais il logeait toujours rue Paradis, car il possédait deux domiciles. Rue Paradis, le portier jura que M. Arnoux était absent depuis la veille. Quant à madame, il n'osait rien dire, et Frédéric, ayant monté l'escalier comme une flèche, colla son oreille contre la serrure. Enfin, on ouvrit. Madame était partie avec monsieur. La bonne ignorait quand il reviendrait. Ses gages étaient payés. Elle-même s'en allait. Tout à coup, un craquement de porte se fit entendre. « Mais il y a quelqu'un ?»« Non, monsieur, c'est le vent. » Alors il se retira. N'importe, une disparition si prompte avait quelque chose d'inexplicable. Regimbard, étant l'intime de Mignot, pouvait peut-être l'éclairer. Et Frédéric se fit conduire chez lui, à Montmartre, rue de l'Empereur. Sa maison était flanquée d'un jardinet, clos par une grille que bouchaient des plaques de fer. Un perron de trois marches relevait la façade blanche, et en passant sur le trottoir, on apercevait les deux pièces du rez-de-chaussée, dont la première était un salon avec des robes partout sur les meubles, et la seconde l'atelier où se tenaient les ouvrières de Madame Regimbard. Toutes étaient convaincues que monsieur avait de grandes occupations, de grandes relations, que c'était un homme complètement hors ligne. Quand il traversait le couloir, avec son chapeau à bords retroussés, sa longue figure sérieuse et sa redingote verte, elles en interrompaient leur besogne. D'ailleurs, il ne manquait pas de leur adresser toujours quelques mots d'encouragement. Une politesse sous forme de sentence, et plus tard, dans leur ménage, elles se trouvaient malheureuses parce qu'elles l'avaient gardé pour idéal. Aucune cependant ne l'aimait comme Madame Regimbard, petite personne intelligente qui le faisait vivre avec son métier. Dès que M. Moreau eut dit son nom, elle vint prestement le recevoir, sachant par les domestiques ce qu'il était à Madame d'Ambreuse. Son mari rentrait à l'instant même, et Frédéric, tout en la suivant, admira la tenue du logis et la profusion de toiles cirées qu'il y avait. Puis il attendit quelques minutes, dans une manière de bureau, où le citoyen se retirait pour penser. Son accueil fut moins rébarbatif que d'habitude. Il conta l'histoire d'Arnoux. L'ex-fabricant de faïence avait enguirlandé Mignot, un patriote, possesseur de 100 actions du siècle, en lui démontrant qu'il fallait, au point de vue démocratique, changer la gérance et la rédaction du journal. Et sous prétexte de faire triompher son avis dans la prochaine assemblée des actionnaires, il lui avait demandé 50 actions, en disant qu'il les repasserait à des amis sûrs, lesquels appuieraient son vote. Mignot n'aurait aucune responsabilité, ne se fâcherait avec personne. Puis, le succès obtenu, il lui ferait avoir dans l'administration une bonne place, de 5 à 6 000 francs pour le moins. Les actions avaient été livrées, mais Arnoux, tout de suite, les avait vendues, et avec l'argent s'était associé à un marchand d'objets religieux. Là-dessus, réclamation de Mignot, l'enternement d'Arnoux, enfin, le patriote l'avait menacé d'une plainte en escroquerie s'il ne restituait ses titres ou la somme équivalente, 50 000 francs. Frédéric Guller, désespéré. « Ce n'est pas tout, » dit le citoyen. « Mignot, qui est un brave homme, s'est rabattu sur le quart. Nouvelle promesse de l'autre, nouvelle farce naturellement. Bref, avant-hier matin, Mignot l'a sommé d'avoir à lui rendre, dans les 24 heures, sans préjudice du reste, 12 000 francs. « Mais je les ai, » dit Frédéric. Le citoyen se retourna lentement. « Blagueur, pardon, ils sont dans ma poche, je les apportais. » Comme vous y allez, vous, nom d'un petit bonhomme. Du reste, il n'est plus temps. La plainte est déposée et Arnoux partit, seul. Non, avec sa femme, on les a rencontrés à la gare du Havre. Frédéric pâlit extraordinairement. Madame Regimbard crut qu'il allait s'évanouir. Il se contint, et même, il eut la force d'adresser 2 ou 3 questions sur l'aventure. Regimbard s'en attristait, tout cela en somme nuisant à la démocratie. Arnoux avait toujours été sans conduite et sans ordre. Une vraie tête de linotte. Il brûlait la chandelle par les deux bouts. Le cotillon l'a perdu. Ce n'est pas lui que je plains, mais sa pauvre femme. car le citoyen admirait les femmes vertueuses et faisait grand cas de Madame Arnoux. Elle a dû joliment souffrir. Frédéric lui sut gré de cette sympathie, et comme s'il en avait reçu un service, il serra la main avec effusion. « As-tu fait toutes les courses nécessaires ?» dit Rosanette en le revoyant. « Il n'en avait pas eu le courage, » répondit Daniel, et avait marché au hasard dans les rues pour s'étourdir. À 8 heures, ils passèrent dans la salle à manger, mais ils restèrent silencieux l'un devant l'autre, poussaient par intervalle un long soupir et renvoyaient leur assiette. Frédéric but de l'eau-de-vie. Il se sentait tout délabré, écrasé, anéanti, n'ayant plus conscience de rien que d'une extrême fatigue. Elle alla chercher le portrait. Le rouge, le jaune, le vert et l'indigo s'y heurtaient par taches violentes, en faisaient une chose hideuse, presque dérisoire. D'ailleurs, le petit mort était méconnaissable maintenant. Le ton violacé de ses lèvres augmentait la blancheur de sa peau. Les narines étaient encore plus minces, les yeux plus caves, et sa tête reposait sur un oreiller de taffetas bleu, entre des pétales de camélia, des roses d'automne et des violettes. C'était une idée de la femme de chambre. Elle l'avait ainsi arrangée toutes les deux dévotement. La cheminée couverte d'une housse en guipure supportait des flambeaux de vermeil espacés par des bouquets de buis bénis. Au coin, dans les deux vases, des pastilles du sérail brûlaient. Tout cela formait avec le berceau une manière de reposoir, et Frédéric se rappela sa veillée près de M. d'Ambreuse. Tous les quarts d'heure à peu près, Rosanette ouvrait les rideaux pour contempler son enfant. Elle l'apercevait, dans quelques mois d'ici, commençant à marcher, puis au collège, au milieu de la cour, jouant au bar, puis à 20 ans, jeune homme. Et toutes ces images qu'elle se créait lui faisaient comme autant de fils qu'elle aurait perdus, l'excès de la douleur multipliant sa maternité. Frédéric, immobile dans l'autre fauteuil, pensait à Madame Arnoux. Elle était en chemin de fer, sans doute, le visage au carreau d'un wagon, et regarda la campagne s'enfuir derrière elle du côté de Paris, ou bien sur le pont d'un bateau à vapeur, comme la première fois qu'il l'avait rencontrée. Mais celui-là s'en allait indéfiniment vers des pays d'où elle ne sortirait plus. Puis, il la voyait dans une chambre d'auberge, avec des malles par terre, un papier de tenture en lambeaux, la porte qui tremblait au vent. Et après, que deviendrait-elle ? Institutrice, dame de compagnie, femme de chambre, peut-être. Elle était livrée à tous les hasards de la misère. Cette ignorance de son sort le torturait. Il aurait dû s'opposer à sa fuite ou partir derrière elle. N'était-il pas son véritable époux ? Et en songeant qu'il ne la retrouverait jamais, que c'était bien fini, qu'elle était irrévocablement perdue, il sentait comme un déchirement de